Alors imaginez un peu. Napoléon, il échappe aux Anglais après Waterloo, mais au lieu de finir à Sainte-Hélène, son bateau est intercepté par des corsaires barbaresques. C'est fou, non?
Ah oui, c'est le point de départ d'une histoire alternative assez incroyable qu'on explore aujourd'hui, d'après nos sources.
Une réécriture vraiment audacieuse. On va voir comment ce scénario l'amène à devenir maître d'Alger, Napoléon Soleiman.
Exactement. Et comment il essaye de bâtir un empire sur les deux rives de la Méditerranée, c'est une plongée fascinante dans les SI de l'histoire, quoi.
Bon, alors comment il arrive à Alger concrètement? Ses ravisseurs, menés par un certain Samir Mansouri.
Oui, et petite anecdote, ce Mansouri serait son ancien cuisinier de Marengo, devenu raïs corsaire. Dingue, non?
Incroyable.
Et donc il le livre au dé Hadji Ali. Et la surprise?
Il retrouve Abdallah Menu, le général français, converti à l'islam pendant la campagne d'Égypte. Ces retrouvailles improbables, ça le place direct au cœur du pouvoir algérois.
Et là, coup de théâtre.
Ben oui, le dey est assassiné le 9 novembre, pile la date anniversaire du coup d'État du 18 Brumaire. C'est troublant quand même.
Un écho du destin, presque.
Voilà. Et poussé par les soldats janissaires, il finit par accepter le pouvoir.
Le voilà donc, Napoléon Soleiman, dey d'Alger.
On pourrait croire à une chute, mais non. Il lance tout de suite des réformes.
Tout à fait. Et c'est là qu'on voit sa nature, hein. Il arrête la piraterie, il libère les captifs chrétiens, un geste politique énorme vis-à-vis de l'Europe.
Ah oui, quand même.
Et il modernise la flotte. Ce qui est frappant, c'est qu'il applique ses méthodes comme s'il pensait que sa vision du pouvoir était universelle, quoi. Ça crée même une crise politique en Angleterre.
Couvre. Avec cette légende qui parle d'un règne sur les deux rives. Est-ce que ça a vraiment joué, ça?
Difficile à dire si c'est le déclencheur, mais ça fonctionne sans doute comme un symbole très fort. Ça lie son ambition à un destin méditerranéen, en quelque sorte.
Et ce destin y prend forme quand Charles X lance une expédition contre Alger.
Exactement. Expédition qui échoue lamentablement, d'ailleurs. Peut-être à cause d'une trahison au sein de l'ambassade française, on parle de flao.
C'est à ce moment-là qu'un jeune officier, Marius Pontmercy, est fait prisonnier.
Oui, et il découvre que son père, Georges, qu'il croyait mort ou déshonoré, est en fait général au service de Napoléon Soleiman. Un choc pour lui, évidemment.
Et ça donne l'occasion à Napoléon Soleiman de lancer la contre-attaque. Une contre-offensive audacieuse, oui.
Il réussit l'impensable, envahir la France et créer l'Alfrance.
L'Alfrance, un empire sur deux continents avec Alger comme capitale. C'est énorme.
C'est une sorte de colonisation inversée, oui. Ça soulève des questions vertigineuses sur l'identité, le pouvoir, les chocs culturels.
Et les conséquences culturelles sont radicales, d'après ce qu'on lit. Talleyrand qui se convertit à l'islam.
Oui. Et des familles algériennes qui s'installent en France, comme les Benflis à Roquemart. Le récit mentionne même, de façon assez provocatrice, la légalisation de la polyandrie, ce qui aurait permis à George Sand d'épouser plusieurs hommes.
Carrément.
Ces exemples, même s'ils sont romancés, montrent bien le bouleversement total des normes. Voir un pragmatique comme Talleyrand, bon, ça montre à quel point les repères volent en éclats dans cette Alfrance.
Mais cet empire, né un peu par hasard, il semble fragile.
Très fragile. La succession est compliquée, avec son neveu converti, Louis-Napoléon Sélim, son mariage délicat avec Eugénie.
Et finalement, tout s'écroule. Pourquoi?
Ben, les tensions internes et externes deviennent trop fortes. Il y a une guerre désastreuse contre le Maroc pour des histoires de phosphate, je crois.
Ah oui.
Qui mène à une grosse défaite militaire. Louis-Napoléon Sélim est capturé. Et pendant ce temps, à Paris, la République est proclamée. C'est la fin de l'Enfrance, la séparation des deux territoires.
Et l'Algérie elle-même se retrouve administrée depuis le sud, avec une figure de résistance qui émerge, Augustine Pontmercy.
Oui, la sœur de Marius, veuve d'Abdelkader, qui lutte contre l'occupation marocaine. Une fin presque aussi mouvementée que le début, finalement.
Tout à fait. De captif des corsaires à fondateur d'empire, puis la chute. C'est un parcours incroyable.
Ce récit explore vraiment le destin, le pouvoir, le choc des cultures, parfois violent, parfois fécond.
Et au-delà de la fiction, cette réécriture nous pousse peut-être à voir différemment les liens complexes et souvent douloureux entre la France et l'Algérie.
Oui, et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion. Qu'est-ce que cette utopie ou cette dystopie nous dit sur les dynamiques de pouvoir et les rencontres entre civilisations qui façonnent encore notre monde aujourd'hui, bien au-delà de Napoléon finalement?